Alors un thème, le pardon, un thème très important qui ne nous concerne pas du tout, bien sûr, ça concerne le reste du monde. C'est toujours important de savoir comment le reste du monde vit et ce qui se passe dans le reste du monde. Donc on fera des petits tours d'horizon un petit peu partout pour essayer de voir un petit peu ce que ça signifie. Ces questions de tension, de discorde, de paroles qu'on a dit, ces paroles qui sortent parfois un peu trop rapidement, qui blessent et qui cassent le cœur de l'autre, ces blessures. Le pardon, c'est quelque chose dont on devrait parler à genoux quelque part, parce que quand une personne a été blessée, quand un événement de la vie, une circonstance, une personne m'a blessé, et ça peut aller très très loin, je donnerai quelques témoignages, il n'y a pas tellement d'autre attitude que de se mettre à genoux et prier. Il y a des choses qui dépassent infiniment tout ce qu'on peut s'imaginer, que finalement on reste en silence, pourtant il y a une réponse à la souffrance de l'humanité, aux déchirures de l'humanité, aux blessures de l'humanité qui a été donnée, non pas tant dans un mot mais dans un visage, le visage du Christ, et pas tellement dans des grandes paroles qu'il aurait prononcées, mais surtout dans le dernier silence du Christ, le silence sur la croix. Et c'est là que, dans une parole bouleversante, il va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et non seulement il va le dire, mais le vivre jusqu'au bout, arracher l'humanité à la discorde et à la violence pour la réintroduire dans la paix et la joie du Seigneur, dans la joie du Père. Il y a tous les mots qui s'arrêtent devant ce signe de la croix. J'étais un jour à Paris, et puis il y avait un clochard qui était là, dans la rue, et puis il me dit « Tu crois en Dieu ?» Alors, je dis « Non, moi je crois pas, puis toi ?» Il me dit « Tiens, bois un coup, c'est 9h le matin, avec sa bouteille de pinard, comme ça, je dis non. » Et cet homme était bouleversant parce qu'il s'émerveillait de tout ce qu'il voyait. Il voyait un chauffeur de camion passer, il dit « Oh, il a du mérite celui-là, il s'est levé à 5h du matin, je suis sûr, pour travailler. Oh là là, il a du mérite. » Tout le monde avait du mérite à ses yeux. À un moment donné, il dit « Mais l'histoire de Jésus, c'est vrai ou c'est pas vrai ?» Puis je dis « Bah, l'histoire de Jésus, c'est vrai. Je peux t'assurer, l'historicité de la vie du Christ, de la présence du Christ sur la terre, ça pose aucun problème. L'historicité de sa crucifixion, aucun problème. Même des auteurs païens en ont attesté la véracité. Par contre, il s'est passé quelque chose de bouleversant, c'est qu'il est ressuscité. Et là, il y a eu des témoins qui, depuis 2000 ans, ont annoncé la résurrection du Christ. Ben voilà, ça c'est l'acte de foi qu'il doit accepter. C'est un personnage plus historiquement assuré qu'un Jules César, par exemple, ce mystère-là. Alors il dit, alors ça c'est fort. Je dis quoi ? Il dit, tiens, bois un coup. Je dis, non, ça va. Non, mais ça, c'est fort. Je dis, mais quoi ? Il me dit, le type, tu te rends compte, on l'a pris, on l'a planté des clous, on l'a tapé sur la figure, et il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ça, c'est fort. Moi, j'aurais pas fait ça, dit-il. Je dis, ben, peut-être moi non plus. Mais il a été bouleversé, justement, par le cœur du christianisme, voyez-vous. Le cœur du christianisme, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui vient rechercher l'humanité. C'est un Dieu qui vient empoigner l'humanité pour la ramener vers le Père. Monsieur Genoux racontait cette histoire dans une classe, il catéchisait, essayait d'expliquer un petit peu, enfin de présenter le mystère de la Trinité aux élèves. Il est là, il dit, vous avez compris un petit quelque chose ? Puis pas un mot dans la classe. Puis il voyait une fille au fond de la classe qui branlait la tête comme ça. Et toi, t'es pas d'accord, t'as quelque chose ? Non, mais alors, c'est aussi bien que ça la Trinité, ce qu'elle a dû se la fouler pour venir chez nous. elle a aussi saisi quelque chose du mystère. Voilà, un Dieu qui se fait homme, qui vient empoigner l'humanité dans sa pauvreté, sa misère, qui va porter la souffrance de l'humanité et nous réconcilier avec le Père. Voilà le bouleversement. C'est la raison pour laquelle on peut parler, non seulement on peut, mais on doit parler du pardon et de la miséricorde, parce que justement, il y a une réponse. La réponse, c'est le visage du Christ, la présence du Christ et l'œuvre de miséricorde du Christ, la grâce du Christ. Enfin, il y a plusieurs constatations préliminaires que j'aimerais faire. D'abord, c'est que les blessures, ben on se les fait, on est là, même si on veut pas, même si on s'aime, et j'allais dire d'autant plus qu'on s'aime, parce que si quelqu'un à la sortie d'un grand magasin vous traite de tous les noms d'oiseaux, bon, ça c'est peut-être pas très agréable à entendre, mais en fait, ça vous touchera moins facilement que si c'est quelqu'un de proche que vous aimez, parce qu'en disant, bon, ben voilà, il n'a peut-être pas raison, hein, il n'est pas infaillible. S'il me traite tout dans d'oiseau, peut-être qu'il peut se tromper. Il a peut-être tort. Donc voilà, c'est pas infaillible. Quand vous traitez d'imbécile, vous n'êtes pas obligé de croire sur parole la personne qui vous le dit. Vous pouvez mettre en doute cette parole et concevoir que vous êtes un enfant bien-aimé du bon Dieu avant d'être un imbécile. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Mais dès qu'il y a l'amour qui est là, ou dès qu'il y a un désir de vouloir aimer et bâtir, alors c'est clair que à la fois l'unité, le lien est plus grand, mais la blessure est d'autant plus grande aussi. Ce qu'on pourrait admettre et passer dessus chez un collègue de travail, si on le vit à la maison, dans le cadre de la famille, avec les enfants, dans le couple, ça arrache le cœur, ça blesse profondément le cœur, et qu'on a vraiment là une expérience de cette souffrance qui découle de ça. En même temps, on se rend compte de toutes les conséquences qui résultent de la souffrance, des pardons non donnés, de ces blessures qui sont faites. Il y avait des médecins qui s'étaient réunis un jour pour une retraite, et à la fin, ils étaient, je crois, une soixantaine, avaient écrit une lettre commune de médecins chrétiens à leurs malades. En disant, chers malades, nous n'avons pas l'habitude de vous écrire. Vous êtes en droit d'attendre de nous la compétence professionnelle au service de votre santé. Mais c'est précisément en raison de notre devoir d'efficacité à votre service que nous avons pris la liberté de vous faire parvenir cette lettre. Lettre amicale, certes, lettre aussi que l'urgence et une plus grande vérité nous impose. Il y a un autre diagnostic à faire, disent-ils. Très souvent, il nous arrive de penser qu'il y a un autre diagnostic à faire, que le mal dont vous souffrez est plus profond, plus global que les symptômes et la maladie que nous essayons de nommer et de soigner. Très souvent, il nous arrive de penser que nous soignons des effets sans déraciner les causes véritables de votre maladie. Nous le savons maintenant, beaucoup de maladies ont pour origine les difficultés de relation. L'homme est un tout et notre corps enregistre à sa manière les fluctuations, les joies, les manques de nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Ainsi, pour votre santé, laissez-nous vous dire qu'il est peut-être encore plus urgent et nécessaire de vous réconcilier avec les autres et avec vous-même que d'acheter des médicaments.